Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotter avec ses études du monde entier. Notre bibliothécaire aujourd'hui, Eva Jacquot, qui nous fera redécouvrir l'œuvre de, devinez qui, Paul Lou Sulitzer, eh oui, le roi du thriller économique. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Au menu de cette librairie de l'écho, on plonge au cœur des organes vitaux de l'économie du 21e siècle. Les réseaux d'abord, ils sont partout dans nos vies. Réseaux financiers, réseaux de transport et bien évidemment Internet et les réseaux sociaux. Mais comment fonctionnent-ils ? Comment maillent-ils nos vies ? Quelles sont leurs forces et leurs points faibles ? Réponse avec vous, Marc Barthélémy. Vous êtes physicien, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et vous publiez Le monde des réseaux aux éditions Odile Jacob. Et puis l'économie du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, c'est plus que jamais celle de la data et des algorithmes, un monde qui nous transforme, nous, individus, en profil, une évolution lourde de conséquences sur nos vies et nos sociétés, conséquences que nous allons détailler avec vous. Philippe Huneman, bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS et vous publiez Les sociétés du profilage aux éditions Payot. Marc Barthélémy, votre passion pour les réseaux, elle date du moment où vous avez lu l'étude de Strogatz et Watts sur ce qu'ils appellent l'effet petit monde. Qu'est-ce?
Oui, c'est vrai, c'était un article paru en 99 où ces physiciens qui normalement font de la physique et étudient des sujets de la matière ou autres, s'intéressaient au réseau, c'est-à-dire c'est des éléments reliés par des liens, et en particulier regardaient le réseau des acteurs. Est-ce que deux acteurs ont joué ensemble ou s'ils n'ont pas joué ensemble, est-ce qu'ils ont joué avec un acteur en commun, ce genre de choses. Et ils ont essayé d'étudier, récupérer des données, c'est un peu la première fois qu'on faisait ça, pour mesurer justement les propriétés de différents réseaux. Et ils sont aperçus, alors on le savait déjà depuis avec Milgram, mais ils sont aperçus qu'on vivait dans un petit monde et que ces réseaux avaient un peu tous cette propriété où les nœuds sont finalement très proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un nœud à un autre par très peu d'intermédiaires. Et cet effet de petit monde a été vraiment ravivé par cet article. Ouais. Et là, je m'étais dit, ah bah, sont des physiciens, je suis physicien, peut-être que je peux regarder ça aussi. Et on s'est mis à chercher des données et j'ai commencé à travailler sur le sujet.
D'accord, oui, c'est l'histoire de, quatre ou cinq contacts, on a forcément quelqu'un qui connaît le président de la République ou...
Voilà, alors ça sert pas forcément à grand chose, mais en tout cas, ouais, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Attendez, ça sert pas à grand chose, sauf que les réseaux, comprendre les réseaux, c'est comprendre finalement beaucoup des processus qui gouvernent finalement nos vies et nos sociétés. Vous dites transport urbain, métro, et puis évidemment Internet, réseaux sociaux, etc. C'est la définition d'un réseau d'abord.
Voilà. Alors c'est parce que la définition est tellement générale et simple qu'on les retrouve partout. Un réseau, alors c'est appelé graphe en mathématiques, mais un réseau c'est un ensemble d'éléments, alors des individus par exemple, reliés par des liens quand ils se connaissent. Donc le réseau amical, c'est on prend des individus, on les met par exemple sur un dessin et quand ils se connaissent, on met un lien entre eux. Donc c'est une structure très générale. Le réseau des lignes aériennes qui est très important, évidemment, là les nœuds ce sont les aéroports et on met un lien entre deux aéroports s'il y a une ligne directe. Donc finalement, c'est une manière de décrire les interactions entre des éléments. Donc c'est suffisamment général pour qu'on le retrouve partout. Et effectivement, on a le réseau électrique, les réseaux sociaux, etc.
Est-ce qu'il y a des grandes règles de fonctionnement des réseaux ?
Alors, ça a été la grande surprise, c'est que sur 20 ans d'études de ces réseaux, électriques, transports, sociaux, etc., on s'est aperçu qu'ils avaient tous des propriétés en commun. Donc, à savoir la propriété de petit monde, c'est-à-dire qu'en général, effectivement, les nœuds sont assez proches les uns des autres.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est qu'il y a des nœuds très particuliers, très spécifiques. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les hubs en anglais. C'est des nœuds très connectés. Mmh. Et c'est eux qui tiennent un peu en fait le réseau et qui sont fondamentaux pour comprendre tout un tas de processus. Comment l'information se propage dans ces réseaux, comment les épidémies se propagent sur les réseaux de contact. Tout ça, ça passe par ces hubs, ces nœuds très connectés au reste. Et enfin, il y a des nœuds un peu particuliers qui servent de passerelles entre différentes communautés. Donc on s'est aperçu que toutes ces propriétés apparaissaient dans tous ces réseaux de manière assez universelle. C'était la surprise.
Commençons par ce qui est aujourd'hui peut-être le plus évident, c'est les réseaux sociaux. En quoi votre travail nous aide à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux?
Alors, réseaux sociaux, je crois qu'il y a le mot est un peu galvaudé parce que oui. Les réseaux sociaux pensent tout de suite,
Vous dites que c'est pas vraiment des réseaux en fait.
Bah, c'est des réseaux dans la mesure où on a évidemment des individus avec des liens.
Ouais.
Donc des personnes ont des followers et ces followers peuvent avoir des followers et ainsi de suite. Mais le réseau social, ça a été étudié par les sociologues bien avant, il y a 30-40 ans déjà. C'est la définition, les nœuds sont les individus et on définit, alors c'est une convention, on met un lien entre deux personnes si elles se connaissent par exemple. Bon, ça a été beaucoup étudié avant. Donc le réseau social, c'est vraiment comment la société est structurée par des liens
amicaux. Mais vous dites que ça permet par exemple de détecter des communautés.
Oui. Alors, en fait, les différentes mesures nous montrent une chose assez claire, et que ces réseaux sociaux, mais pas au sens Twitter, Instagram, hein, ouais. La société est structurée en groupes assez denses, c'est-à-dire qu'on a des amis qui se connaissent entre eux, donc ça forme des espèces de communautés assez denses, qui, par un lien, sont reliés à d'autres communautés. Donc il faut voir vraiment la société comme un groupe, des grappes denses, mmh. Reliés par des liens assez rares. Donc si j'ai un ami par exemple en Australie, tout d'un coup je me retrouve très proche d'un groupe, d'une communauté en Australie. Donc on a ces liens très rares qui relient ces communautés très denses, et c'est ça vraiment qu'il faut retenir de la structure du réseau social. Et ça permet de comprendre, par exemple Granovetter, un sociologue américain très connu, avait parlé de la force des liens faibles. Et donc on comprend avec cette image de grappe et de liens rares que si on veut explorer le réseau social et donc rencontrer de nouvelles personnes, trouver de nouvelles opportunités, il faut trouver ces liens rares. Sinon on tourne en rond, on reste dans notre ouais. groupe d'amis.
Il faut trouver la porte qui va vous ouvrir vers
exactement. Et c'est ça, c'est bien faible.
Monde, en fait.
Voilà, et donc une opportunité de travail ou d'idées, etc., va se faire par ces liens faibles et rares.
Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux encouragent, ou au contraire, est-ce qu'ils découragent finalement les débats d'opinion, par exemple?
Ah bah, je pense que ça, vous en parlerez après, mais il y a eu une catastrophe avec les algorithmes de recommandation, c'est très clair. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique des systèmes complexes, c'est que les petites causes peuvent avoir des effets à l'échelle collective qui sont catastrophiques. Et ce qui partait peut-être d'un bon sentiment qui était... on va vous recommander de suivre telle ou telle personne puisque c'est quelqu'un qui a des goûts similaires, etc., a fini en catastrophe et une polarisation complète sur ces réseaux. Et très clairement, on est contre le débat d'opinion. Maintenant, sur Facebook ou sur Twitter, il y a des réels problèmes. Il faudra sans doute injecter un petit peu de diversité.
Alors, les réseaux, c'est partout. C'est les réseaux urbains. Et vous dites là, le plus bel exemple finalement d'étude qu'on puisse avoir, c'est la transformation de Paris par Haussmann.
Oui.
Et quelle conclusion on peut en tirer par exemple? Est-ce que ça a autant d'effet que ce qu'on pouvait espérer en matière de lien social, d'urbanisme, de circulation, etc.?
Alors, ce qui est amusant, c'est quand on regarde ce qu'a fait Haussmann de manière quantitative, si on fait des mesures, ouais. etc., comment il a transformé le réseau de rue, il faut aller assez loin. Et on s'est aperçu que ce qu'il a vraiment changé, et changé en profondeur, c'est la manière de se déplacer dans Paris. Et donc finalement, c'est vraiment la navigation dans le réseau qu'il a totalement modifié. Et alors, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il cherchait à connecter les endroits un peu centraux, les gares, etc. Alors à des fins aussi un peu... il est clair qu'il fallait que les militaires, l'armée arrive vite aux endroits où des émeutes pouvaient se produire. Mais du coup, il a vraiment impacté la manière de se déplacer dans une grande ville. C'est ça la grande transformation d'Haussmann. Et on l'a compris grâce à l'étude justement du réseau des rues.
Vous dites tous les métros dans le monde se ressemblent.
Ouais.
Ils sont tous construits pareil.
Ils semblent tous, dès que les métros grandissent, hein, il y a de plus en plus de stations, etc. Et de manière assez surprenante, ils convergent tous vers la même structure, qui est une espèce de, qu'on peut se représenter comme un noyau un peu dense où on a plein de stations et puis des pattes, comme une espèce d'araignée, et des branches qui vont vers la banlieue, en fait. Et ils convergent tous vers la même structure, oui.
C'est quoi les points faibles d'un réseau?
Il y en a de plusieurs sortes, mais les réseaux, quand on a des d'abord les points faibles, faut s'entendre. On peut parler de panne aléatoire. Par exemple, Internet a été construit par les militaires au départ, mais on voulait fabriquer un réseau qui résiste à des pannes aléatoires d'ordinateurs. C'est-à-dire que même s'il y avait un ou deux ordinateurs qui se cassaient la figure, le réseau devait pouvoir fonctionner. Et c'est ce que Internet fait d'ailleurs. En revanche, on peut aussi penser à des attaques ciblées. Ça, c'est très différent. C'est plus une panne aléatoire. On va chercher un point bien particulier du réseau et l'attaquer. Et il se trouve que les réseaux actuels, la plupart des réseaux, sont très résistants face aux attaques aléatoires. En revanche, l'existence de nœuds très connectés, ces fameux hubs, c'est vraiment leur talon d'Achille. Et si on trouve ces hubs et que on les détruit ou on les le réseau entier se casse la figure. Donc il y a vraiment dans ces réseaux très grands des talons d'Achille qu'il faut absolument protéger. Et les routeurs importants sur Internet sont d'ailleurs sont cachés dans un endroit secret. Enfin il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment les talons d'Achille des grands réseaux.
Alors, le Nouveau Monde, c'est aussi, Philippe Unemann, celui des algorithmes et des data. Alors, vous dites, hein, au début de votre livre, souvent, il y a deux visions. Il y a la vision technophile, où finalement, on nous dit qu'on va vers un monde merveilleux, où la connaissance gratuite et abondante profitera à tout le monde. Ou bien, on nous décrit un monde quasiment Black Mirror, apocalyptique. Et vous penchez plutôt de quel côté, vous ?
J'essaye de pas pencher, c'est-à-dire deux choses. La première, c'est, vous savez, je cite ce qu'on cite souvent quand on vient de la philosophie et qu'on essaye de réfléchir sur le monde qui nous entoure, hein, la phrase de Spinoza qui dit ne pas rire, ne pas se lamenter, ne pas pleurer, mais comprendre, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on a souvent une sorte de réaction émotionnelle, parfois esthétique. On se dit ah, ce genre de choses sur cette addiction aux réseaux sociaux, c'est moche. C'est mais ça c'est pas de la pensée, ça c'est une réaction esthético pulsionnelle. Mais l'enjeu c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et la seconde chose qui m'intéresse, c'est que ces deux attitudes. Il suffit d'ouvrir des journaux pour voir hein, les prophètes. On va avoir tout le savoir de l'univers et en plus on mourra jamais d'un côté. Et puis les personnes qui disent ah mais les gens ne savent plus penser, ne savent plus écrire à cause d'Internet. C'était déjà là au début. C'est-à-dire qu'au début de l'Internet, vous aviez à la fois une sorte d'utopie extraordinaire de, en gros, la démocratie directe. Chacun va donner son avis et chacun va évaluer les avis des autres et on va pouvoir progresser comme ça dans le savoir. Ouais. D'autant que grâce à cet outil, l'information sera gratuite. Et d'un autre côté, vous aviez des gens qui sentaient bien que c'était une mine pour des impérialismes capitalistes qui se serviraient de ça pour maximiser leur pouvoir.
Alors, il y a quand même une phrase. Vous citez un petit texte au début de votre livre. Ça se passe en 1976 et c'est une personnalité importante qui fait ce discours. Je cite rapidement. « L'homme deviendrait un consommateur d'images et de signes placé devant un écran universel, capable de solliciter tous les savoirs, toutes les mémoires et tous les services. Il n'y aurait plus besoin de se déplacer. L'enseignement, les achats, la consultation médicale et même l'activité professionnelle se feraient à domicile. La communication deviendrait abstraite et la révolution entreprise par la télévision serait ainsi portée à son terme. Le monde entier serait proche, mais l'homme n'aurait plus de prochain. » On va jouer de vinette. 1976, à votre avis, qui a prononcé ce discours? C'était Valéry Giscard d'Estaing. Dans un colloque informatique et société. C'est, par rapport à ce qu'on se dit, bon, c'est quand même assez visionnaire, je trouve. Alors, vous nous dites, on passe des sociétés de la discipline, ça c'est Michel Foucault qui a décrit ça en 1975, à des sociétés de contrôle, et là c'est Deleuze dans les années 90. Ouais. Déjà, ça veut dire quoi ? On passe de la société de discipline à la société de contrôle.
Alors ce que Foucault appelait société de la discipline, c'est l'idée que, alors on est au moment de, au début de la révolution industrielle et il va s'agir pour la gouvernance des États de d'ordonner des populations, de maximiser leur productivité et de faire en sorte que des normes soient instaurées et respectées. Donc d'où la surveillance. La surveillance, c'est savoir non seulement ce que font les gens, mais surtout s'ils passent, s'ils transgressent ou pas des normes. Et ça, il y a des lieux pour ça qui sont caractéristiques, l'hôpital, l'école, où on met les élèves en rang dans des, derrière des tables, l'armée napoléonienne qui va avoir un protocole strict avec des normes très strictes qui lui permettent de remporter des batailles, et puis l'usine qui dont les normes et les formes d'organisation vont se développer jusqu'à atteindre le paroxysme du fordisme. Donc ça, c'est les sociétés de discipline, et Foucault dit, la discipline, c'est quelque chose qui a été inventé par les moines, en fait, dans les monastères, pour régir l'organisation... l'organisation cléricale des moines, et puis qui est importée là dans cette optique de maximisation de la productivité et de surveillance des normes. Et en gros, dans, alors ça, c'est surveiller et punir, c'est un très gros livre de Foucault. Il y a des tonnes de conférences. Et puis après, il y a quand Deleuze, donc, qui médite un peu là-dessus, écrit un texte très court. Il n'a pas écrit grand-chose. Il a appelé ça les sociétés de contrôle, et il parle de l'individualisation de la surveillance qui passe, en gros, d'une sorte de d'optimisation de la capacité de production des groupes à un monitoring des comportements individuels pour savoir, en particulier, qui achète quoi. C'est le passage avec la carte de crédit. Et ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est comment les technologies numériques permettent de passer d'un souci donc de la surveillance ou du contrôle à un souci de la prédiction, avec en particulier le rôle des données, des algorithmes qui traitent les données. Et c'est ça le profilage.
Alors exactement, c'est-à-dire qu'en gros, société de la discipline, puis société de contrôle, et vous, finalement, vous prolongez en disant maintenant, effectivement, nous rentrons dans la société du profilage. Alors, c'est quoi cette société du profilage?
Alors, deux choses. Donc, quand je dis société de, c'est vraiment sur le modèle des locutions de Foucault, de Deleuze, société de contrôle. Ouais. Alors, il y a Bernard Harcourt qui a écrit aussi un livre important qui s'appelle Les sociétés d'exposition, où il parle en particulier de notre tendance à exposer notre vie privée partout sur des supports numériques. Il y a Vanessa Codaccioni qui parle de sociétés de vigilance. Donc l'idée, c'est qu'il s'agit d'une forme de socialité qui est en même temps un mode de gouvernance ou de gouvernementalité. Et donc c'est une technique qui c'est quelque chose sur une base technique qui permet de faire société et de gouverner. Et c'est la base technique, c'est les données massives et les algorithmes. Et cette chose-là, que j'appelle profilage, c'est le fait que, grâce au support numérique, les gens, de manière consentie ou pas consentie, oui, laissent des tonnes de données sur eux, qui s'ordonnent dans un hyperespace de données, dans lequel, alors, on peut produire, alors de manière algorithmique, parce qu'il y a trop de données pour pouvoir traiter ça statistiquement, entre guillemets, à la main, on peut produire tout un tas de prédictions sur ce qu'ils vont faire, sur ce que vont faire les gens qui sont comme eux dans cet espace de données, et donc ce que eux vont faire.
Parce que l'abondance de données, on associe ça souvent à ce qu'on appelle le big data, mais vous dites, attention, le big data, c'est beaucoup plus que la surabondance de données.
Oui, c'est ce qui est dit dans la littérature. Hein. C'est vraiment un livre qui repose sur beaucoup de choses qui ont été dites, étudiées. Moi, j'apporte un angle qui est le mien, qui est la philosophie des sciences, mais je vais pas insister là-dessus. Mais en effet, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on appelle données massives, des données qui sont très nombreuses, mais aussi très variées. Par exemple, c'est pas qu'on a la taille de 7 milliards d'individus, c'est qu'on a sur 700 millions d'individus leur taille, leur poids, leur âge, leur date de naissance, la quantité de calories qu'ils ingèrent, le nombre de pas qu'ils font par jour, leur rythme de sommeil, etc. Donc il y a des dimensions très variées de données, et que par ailleurs ces données sont produites en continu. C'est-à-dire que là, à l'heure où je parle, je ne sais combien de génomes dans les divers instituts du monde ont été séquencés, sans doute quelques centaines, pendant le temps de l'émission. Donc c'est des données volumineuses, variées, ça c'est très important, véloces, c'est les 4 V on dit en anglais, et valuable, c'est-à-dire qui rapportent.
Toutes ces données, donc elles s'agrègent pour fabriquer un profil. Quelle est la différence entre un profil et un individu?
Alors, le profil concerne un individu. Si vous voulez, c'est un ensemble de traces d'un individu concaténé, et ces traces sont pas juste additionnées les uns aux autres, elles s'ordonnent dans un hyperespace. Alors un hyperespace, c'est quoi? On connaît l'espace, il y a trois dimensions. Là, vous imaginez qu'il y a 200, 2000 dimensions. Une dimension, ce serait par exemple notre taille, notre poids, notre âge, mais aussi notre rythme de sommeil, notre niveau d'études, nos disques préférés sur Spotify, nos films préférés, l'âge de nos enfants. Enfin, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de dimensions. Et autant quand il y a deux dimensions mathématiquement c'est traitable, autant quand il y a 100, 200, 400 dimensions, c'est pas traitable mathématiquement de manière transparente, c'est-à-dire par un humain, c'est traitable algorithmiquement. Et ces hyperespaces de données, ils sont très fréquentés par les courtiers en données qui accumulent des données, en particulier, c'est pour ça que l'Internet a un rôle stratégique ici, qui accumulent des données sur nous, qui sont les données qu'on laisse. Alors, et qui les traite.
Au cœur du profilage, quelque chose de très important, c'est cette articulation entre corrélation et causalité.
Oui. Alors,
corrélation, c'est en fait il y a finalement une évolution commune, mais qui n'a pas de lien causal. Alors que causalité, on a quand même une explication, une rationalité,
oui,
finalement à la relation entre.
C'est
entre
ça. C'est-à-dire que la corrélation, c'est deux variables qui varient ensemble et qui, par exemple, si je vous dis peut imaginer le revenu ou l'âge au mariage, par exemple. L'âge moyen au mariage qui baisse, il est corrélé négativement avec l'augmentation du PIB. C'est-à-dire que l'âge moyen au mariage diminue, le PIB augmente dans beaucoup de pays. C'est quelque chose qui a été pas mal étudié. C'est corrélé. Il y a des tonnes de corrélations. La corrélation est neutre causalement. C'est-à-dire que, alors j'adore citer ce site qui s'appelle spuriouscorrelations.com, où il y a des dizaines et des dizaines de corrélations qui sont exactes. Hein, où, par exemple, la quantité de fromage ingéré aux États-Unis corrèle avec le nombre de films où joue Nicolas Cage. C'est une corrélation exacte, mais évidemment, il n'y a aucun lien de causalité. Or, les corrélations qui généralement nous intéressent, c'est celles qui sont causales, la cause et l'effet. Parce que si on agit sur la cause, alors on agit sur l'effet. Et donc, on peut prédire. Or, dans les hyper-espaces de données dont je parle, en fait, on a tellement de données, donc tellement de corrélations, qu'on n'a plus besoin de causalité. Alors, pour prédire.
La question, c'est, dans cette société, finalement, est-ce que l'intimité existe encore ? Est-ce que le débat politique existe encore ? Puisque vous dites, finalement, le profilage, ça menace quand même le collectif, quelque part.
Oui, alors, ça menace le collectif de plusieurs manières. Et comme je vous disais au début, j'essaye de pas faire un livre alarmiste, j'essaye d'être vraiment plutôt dans l'analytique, du moins pour la plus grande partie du livre. Donc, comme c'est un livre de philosophie, j'essaye de voir comment la socialité est affectée par ça, donc les relations des gens les uns avec les autres, et puis la gouvernementalité, c'est-à-dire la manière dont un pays est dont un État est gouverné, dont des politiques sont appliquées. Et alors il y a deux choses. La première, c'est effectivement donc l'intimité. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des débats en anglais, c'est la privacy. Il y a des débats énormes parce que il y a un enjeu qui est les données qu'on expose. On ne sait même celles qu'on donne, il y a celles qu'on donne volontairement quand on met des photos sur Facebook. Et si je vais sur Google, je fais une recherche, ce que je fais est enregistré. On dit pas qui je suis forcément, mais il y a mon adresse IP. Si j'ai rempli des tas de formulaires avec mon téléphone, c'est traçable, c'est moi. Et je ne consens pas à ça. Donc ça, il y a un problème ici qui est que mon intimité devient de plus en plus explorée et partagée et je le sais pas.
Vous dites, on rentre dans la société d'exposition.
C'est ça.
Qui reste une démocratie.
La société d'exposition, c'est vraiment le mot de Bernard Harcourt, hein, et qui est juriste. Et donc, son livre dit une chose très intéressante. Il dit, souvent, il y a des dystopies. Il y a Black Mirror. Et l'une des mères de toutes les dystopies, c'est Orwell. C'est 1984. Et Harcourt dit, on n'est pas en Orwell. Il n'y a pas Big Brother. Il n'y a pas une surveillance centrale de tout le monde. Ni une propagande généralisée pour laver le cerveau des gens. Au contraire, il dit, tout le monde regarde à l'intérieur de la vie de tout le monde, mais il n'y a pas une surveillance centrale. Et c'est ça qui se passe. Alors, les réseaux sociaux, c'est exactement ça. On est comme transparent à 2, 3, 6, 1 million de personnes. Et en même temps, c'est ça qui est problématique, parce qu'on ne sait pas justement qui sont ces personnes, on ne sait pas à combien de personnes. Et au-delà de ça, on ne sait même pas si elles existent. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 followers sur Facebook ou Twitter, c'est possible qu'il y en a 5 000 qui soient des robots. Et on ne le sait pas. Donc voilà, c'est les frontières de l'intimité qui sont en jeu.
Pour conclure, Philippe Hudeman, vous dites l'illusion la plus puissante, en fait, qui nous empêchera toujours de nous déconnecter, c'est celle de la promesse, quelque part, de la vie optimale.
Oui, c'est quelque chose qui va avec la prédiction, c'est pour ça que je l'ai mis dans le sous-titre. C'est l'idée que tous les algorithmes de recommandation, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous allez avoir ce qui vous convient tout le temps. Vous allez voir ce qui est le mieux. Les sites de rencontres vous disent, c'est pas la peine de faire confiance au hasard de la vie. En fait, on va vous donner une liste de gens et il y aura ceux qui vous conviennent le mieux qui seront, qui s'afficheront sur vos écrans. Et donc, c'est cette promesse-là qui est une promesse qui est tentante et en même temps, évidemment ça ne marche pas mais ça reste très tentant parce que ça peut être subverti très facilement. Donc je raconte cette histoire que j'adore du type qui a fait le restaurant le plus coté sur TripAdvisor à Londres et en fait ce restaurant n'existait pas. C'est quelqu'un qui était payé pendant longtemps pour faire des évaluations sur TripAdvisor. Il s'est dit je vais en faire mais sans le restaurant. Donc il a imaginé un restaurant, lui et ses copains ont mis des centaines d'évaluations, c'est devenu le numéro 1 et les gens sont ensuite venus et ils ont dîné dans le jardin du type qui leur a vendu des plats picards pour une somme conséquente.
Et ben on vient d'avoir la même aventure à Montréal qui vient de se produire. Ah, oui, une blague avec des copains qui ont photographié la cave avec un bar vaguement d'un de leurs copains. Ils ont mis des notes dithyrambiques et ça a commencé comme ça. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Marc Barthélémy, Le Monde des Réseaux, publié chez Odile Jacob, et Philippe Unman, Les Sociétés du Profilage. C'est aux éditions Payot. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
Tous les week-ends, sur BFM Business, tournez les pages de l'économie avec Emmanuel Lechypre.
Vous aimez l'économie, vous aimez les livres, la librairie de l'écho, c'est votre émission. Chaque semaine, je reçois des auteurs qui viennent parler de leur actualité. Et puis nos critiques débattent de leur coup de cœur et de leur coup de gueule. Nos chroniqueurs vous font voyager dans le temps avec des livres d'hier, des livres de demain ou dans l'espace avec des études et des livres venus du monde entier. La librairie de l'écho, c'est l'émission qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim, notre globetrotteur. C'est Eva Jaco qui sera aujourd'hui notre bibliothécaire. Et on vous fait redécouvrir l'œuvre immense de Paul Loos-Sulitzer. Eh oui, vous voyez, je sais pas ce qu'il en pense, Christian, tiens, de Paul Loos-Sulitzer. Attends, il a passionné des tas de gens avec ses romans financiers, non?
Passionné plus que formé, oui.
Passionné plus que formé. Très bon, j'adore les formules choc de Christian. Et tout de suite, on retrouve nos deux critiques attitrés, évidemment, dont Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc, qui a surpris Christian, le livre de Pierre Veltz, Bifurcation, aux éditions de l'Aube.
Oui, donc Bifurcation au pluriel, puisque l'auteur, donc on rappelle qu'est Pierre Veltz. Pierre Veltz, un économiste, sociologue, qui est spécialiste des territoires, qui s'intéresse beaucoup à l'économie sur un plan plutôt géographique et local.
Plusieurs fois invité dans la librairie pour ses précédents livres.
Voilà. Et donc, le sous-titre de son livre, c'est Réinventer la société industrielle par l'écologie, avec un point d'interrogation. Alors, effectivement, il aborde le problème de l'avenir de l'industrie dans un monde qui va être un monde où il y a des exigences et des nécessités écologiques. Il commence par faire un état des lieux. Est-ce que on a vraiment été victime de désindustrialisation? Il dit, il faut quand même se méfier. Il y a eu des gains de productivité. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont véritablement parties, notamment en Chine. Il y a eu plutôt une redistribution du type de production qu'on a faite. Et il dit, d'ailleurs, par rapport aux années 70, la production industrielle en France et dans l'Union européenne est supérieure. Donc l'enjeu n'est pas tellement la désindustrialisation, c'est la décarbonation. C'est de faire en sorte que on change de type de société. Donc bifurcation, c'est véritablement de raisonner différemment avec cet impératif qui est devenu la réponse au réchauffement climatique et à l'émission de gaz à effet de serre. Alors, il dit, en fait, ça demande un certain nombre de mesures. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est que il dit, ça demande surtout une rupture intellectuelle. Il faut passer de la société de Georges Perec, décrite par le livre Les Choses, où tout le monde cherchait à obtenir davantage d'objets, à une société qu'il appelle humano-centrée, Alors c'est un peu, je trouve la formule est un peu pompeuse, mais sur le fond, il y a cette idée que la sobriété, qui doit être effectivement un des mots clés de l'organisation future, la sobriété, elle sera partagée. Tout le monde doit faire de la sobriété. Et il dit dans les gestes quotidiens, ce qui est aberrant quand on regarde la vie, par exemple, des États-Unis, c'est la quantité du gaspillage alimentaire qu'il y a, le nombre de produits que l'on jette, alors qu'avec davantage de discipline, on aurait moins de produits jetés, on aurait moins de production agricole, on aurait donc moins de pollution en amont. Et donc, il y a tout un état d'esprit consistant à dire que, un, il y a urgence, deux, qu'il ne faut pas non plus considérer que cette urgence autorise tout, mais que ça suppose une mobilisation, notamment une mobilisation locale, une mobilisation au niveau des individus, pour répondre à cet enjeu qui est l'enjeu écologique. Alors, j'ai trouvé le livre assez bien construit, bien écrit, et assez percutant et assez convaincant, même si quelquefois je trouve qu'il y aurait besoin de détailler un peu les mesures, d'être plus concret et moins militant dans la façon de présenter les choses.
J'en reviens pas, mais franchement, autant depuis qu'on fait la librairie, je dirais que Christian, il est campé toujours sur ses positions, il n'a pas changé. Mais alors vous, Jean-Marc, vous êtes en train de faire un chemin.
Non, mais pas du tout.
C'est absolument
pas
incroyable.
C'est pas parce que l'autre jour, dans la matinale,
oh là là,
alors il faut défendu.
Jean-Marc, ça y est, il a la marguerite entre les dents.
Il fallait arrêter d'investir Christian, dans le pétrole.
Que... Christian Chavagneux.
Percutant, convaincant. Oui. Quand je pense que l'année dernière, Jean-Marc me faisait lire des bouquins qui flirtaient avec le climato-scepticisme, je salue ce retour à la raison de la part de Jean-Marc.
Non, parce c'est une position modérée que je confirme.
C'est un très bon livre, j'ai trouvé, et qui s'appelle Bifurcation, et non pas Transition, nous dit l'auteur. Parce que Transition, ouais, ça laisse penser qu'on a un petit peu le temps, que tout ça va se faire de manière soft. Non, c'est une bifurcation, des bifurcations dont nous avons besoin, et pas en 2050, nous dit-il. On a un budget carbone maximum si on veut rester sous les 1,5 degrés. Ce budget carbone maximum, compte tenu du rythme actuel, il nous laisse 9 ans. Donc, compte tenu des stats du GIEC qui étaient de 2021, on a jusqu'en 2030, pas jusqu'en 2050. Et toutes les solutions qui vont au-delà de 2030 sont des solutions qui ne sont pas acceptables. Il y a plein de choses d'ailleurs. Pierre Vels nous dit que ce n'est pas franchement la bonne solution. L'industrie verte, par exemple. Non, ce n'est pas de l'industrie qui continue à produire et nous fait consommer autant en émettant moins. Il faut vraiment baisser. Donc, c'est vraiment l'industrie verte, ce n'est pas la solution. Les gestes du quotidien, ça contribue. Mais c'est très, très loin de répondre aux problèmes systémiques. Donc, il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est par la taxe carbone ? Il dit non. Franchement, la taxe carbone, c'est un mirage. Il y a 60 pays aujourd'hui dans le monde qui ont une taxe carbone. Ça couvre que 20% des émissions. Et par peur sociale, la taxe est tellement petite que ça ne fait pas changer les comportements. Donc, il dit rêver d'une taxe carbone dans tous les pays du monde, voire d'un prix du carbone mondial. On peut toujours rêver, mais ça ne se passera jamais. C'est une fausse solution. Il y a des vraies solutions. Alors, les ingénieurs nous disent depuis des années, livre après livre, qu'il faut faire de l'éco-conception, c'est-à-dire non pas des produits pourris qu'on essaye de recycler éventuellement après, mais dès le début, qu'on puisse les garder longtemps avec moins d'hydrocarbures, etc. Il y a un discours très social. Pierre Vels nous dit la transition, la bifurcation écologique, c'est aussi une bifurcation sociale. Et les 50% des plus pauvres sont déjà dans le montant d'émissions qui font qu'on reste sous 1,5 degré. C'est les plus riches qui doivent faire des efforts et beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup plus que le reste de la société. Et puis, on ne peut pas simplement reposer sur le marché. Il faut de la planification écologique. Les bifurcations, c'est une intervention de l'État très forte. Il y a tout ça dans ce livre et je suis content que Jean-Marc ait décidé de trouver que la parole était convaincante. À la fin du livre, trouver des politiques quand même assez concrètes sur l'habitat, sur le transport, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et globalement, c'est un livre de mobilisation, je dirais intellectuelle, et là je suis d'accord avec Jean-Marc, qu'à la fin il nous dit il faut repenser un peu l'économie. Pour l'instant, on en est vraiment qu'au tout début de ce remodelage de la pensée économique qui prend en jeu qui prend en compte les enjeux de transition et de bifurcation écologique.
Ouais, moi c'est toujours la limite de ces livres où il y a beaucoup d'injonctions, mais
non, c'est de l'analyse, c'est pas que de l'injonction, c'est la proposition.
C'est compliqué de voir comment on va effectivement réussir à changer les mentalités.
Le problème, c'est effectivement quand on passe de l'injonction à la concrétisation. Mais c'est un livre utile qu'il faut lire.
On passe au livre de Christian, le livre de Cyril Ferraton. Qu'est-ce que l'économie, l'approche herméneutique de Robert Heilbronner? C'est aux éditions Normal Sup. Ouais,
Robert Heilbronner, c'est un économiste américain que la jeune génération, à mon avis, ne connaît pas, ouais, et que la génération un peu plus ancienne connaît, mais pour un seul livre qui s'appelle Les Grands Économistes, qui a été publié pour la première fois au Seuil en 71, traduit dans plus de 20 langues. Cette édition, un succès mondial, un best-seller en économie, comme il y en a rarement un livre, écrit au début des années 50 par un jeune Robert Heilbronner qui a une trentaine d'années, en fait. Donc, Donc, ce que nous fait découvrir le livre, déjà, c'est le parcours un peu de ce personnage qui a écrit ce best-seller aussi jeune, fils de bonne famille, bon lycée privé, Harvard. Alors, il a comme prof d'économie à Harvard, Sweetsy, Chamberlain, Galbraith, Schumpeter, Alvin Anselm, excusez du peu, la crème de la crème des professeurs américains. Il y a la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Galbraith le prend avec lui dans son administration du contrôle des prix. Puis il se remet à étudier l'économie. Il va passer sa thèse que 10 ans plus tard, après avoir écrit son best-seller. Donc en fait, le gars va passer sa thèse au moment où il a déjà vendu un best-seller mondial en économie qui marche très très bien. Et en fait, on ne connaît Heilbronner que pour ce livre. Et là, deuxième intérêt, au-delà de la biographie du personnage, c'est de nous faire découvrir tous les autres travaux, en fait, parce que c'est un auteur, moi j'ai découvert dans ce livre, c'est un auteur extrêmement prolixe. Il est dans un centre de recherche très pluridisciplinaire, un peu bizarre, qui a accueilli beaucoup d'Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'intéresse à beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc, Heilbronner va être quelqu'un qui va avoir une approche pluridisciplinaire de l'économie. Je ne pense pas du tout que les économistes sont des scientifiques qui donnent la bonne parole. Là. Il dit... C'est des gens comme les autres chercheurs en sciences sociales qui viennent avec leurs croyances, leurs préjugés. Il faut faire avec, c'est tout. Mais on peut pas dire que parce que la méthode est plus ou moins scientifique, alors les résultats c'est de la science pure et objective. Bien évidemment, compte tenu de l'époque, il s'est beaucoup intéressé à comparer le capitalisme et le socialisme. Alors c'est pas du tout un défenseur du modèle économique socialiste, hein, mais il peut être aussi critique du modèle économique capitaliste. Et dès 69, il écrit que le modèle capitaliste déséquilibre les relations entre l'économie et la nature. 30 ans plus tard, en 99, il va dire là, on a un siècle qui va commencer bientôt et qui va remettre en cause l'existence même de l'humanité à cause des dérèglements écologiques. C'est plutôt bien vu en 1999 et bien écrit. Voilà, moi j'ai trouvé, c'est un petit livre, le titre est beaucoup plus compliqué que le contenu qui se lit très très bien. On redécouvre un auteur, un personnage, on redécouvre un auteur beaucoup plus riche que le seul livre pour lequel il a été connu.
Jean-Marc Daniel. Et c'est-à-dire que vous savez, il y a un certain nombre de gens dont on dit qu'ils gagnent à être connus. Lui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, effectivement, il y a ce livre que j'ai lu, que toute ma génération, nous tous avons lu sur les grands économistes. C'est un livre d'histoire de la pensée économique assez, d'ailleurs, dont il explique que l'auteur explique qu'il a été plus ou moins le résumé d'un cours qu'il a suivi, et pour essayer de montrer la pensée de Heilbronner, il met deux textes, deux courts textes à la fin en annexe qui, bon. Et alors, j'ai trouvé aussi bien la description du personnage que les textes extrêmement datés. C'est quand même vraiment quelqu'un qui a vieilli. Alors effectivement, comme le dit Christian, il y a des références au capitalisme et au socialisme parce qu'à l'époque où il écrit, on est en pleine période de triomphe intellectuel du communisme. Il y a aussi des références évidemment à la psychanalyse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est dans la même situation. Et donc, ce sont des textes et des visions qui sont assez datées. Le seul aspect un peu positif, c'est que tous ces économistes allemands qui ont été obligés de fuir le nazisme en 1933, qui sont arrivés aux États-Unis, ont apporté une pensée qui est effectivement une pensée, il le dit bien, qui est une pensée qui a autant fait que Keynes pour introduire les politiques de relance, pour introduire les politiques qui ont été mises en application dans les années 50-60. Au bilan final, encore une fois, très bien, ce gars a existé, et je regrette pas d'avoir lu son livre d'histoire de la pensée économique, son livre de portée d'économiste, mais j'en resterai là, hein. Je vais pas essayer de cultiver, d'aller rechercher d'autres livres, d'autres textes de cet auteur.
Eh ben voilà, c'est le mot de la fin. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire. Alors, d'auteur inconnu, un autre auteur inconnu par la jeune génération, on fait le grand écart. Voilà, on passe d'Heilbronner à Paul Loup-Sulitzer.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Eva Jaco.
Bonjour Emmanuel.
Eva, cette semaine, vous nous parlez d'une œuvre monumentale, culte des années 80, que les moins de 20 ans sans doute ne connaissent pas. Il s'agit de l'œuvre de
Paul Loup-Sulitzer.
Eh oui, il a formé des générations, au moins une ou deux générations, vraiment à la littérature économique et financière, Paul Loup-Sulitzer.
Oui, exactement, c'est vraiment l'emblème d'une époque. À seulement 21 ans, il a fait fortune en se lançant dans la vente de gadgets fabriqués en Asie, et puis il devient consultant dans la finance. Alors, Paul Loup-Sulitzer, il a publié 35 livres, traduits en plus de 40 langues et vendus à 43 millions d'exemplaires à travers le monde.
Incroyable.
Alors tout commence en 1980. Moni est le premier roman de Sulitzer. sorti aux éditions De Noël, puis suivi par Cash et Fortune en 81 et 82. Alors cette trilogie marque la naissance d'un nouveau genre, du thriller financier, ou comme il l'appelait lui-même, du western financier. C'est un peu le Largo Winch des années 80.
Alors, Sulitzer, il nous plonge dans tout un tas d'affaires, d'opérations financières, et en même temps, c'est très romanesque, globalement. Commençons par Monet. Monet, finalement, c'est son premier ouvrage. De quoi ça parle ?
Alors, dans Monet, on est à l'aube des années 70, et on va suivre le héros, Franz Simbali, retenez bien ce nom. Il a 21 ans, il est héritier d'une grande fortune que lui a laissé son père, mais il se fait dépouillé de tous ses biens. Il est chassé de Londres, il arrive en Afrique sans un sou et il commence à faire du business avec une affaire de change prolifique au Kenya, puis dans l'or. Alors c'est presque une autofiction, puisque comme Paul Lussulitzer, il va faire fortune dans les jouets, dans une entreprise de jouets à Hong Kong. En parallèle de la construction de sa fortune, il enquête sur la disparition de la fortune de son père, ouais, et il élabore des plans méticuleux pour chercher les gens qui l'ont trahi, et il, en fait, finalement, c'est une version moderne de du comte de Monte Cristo.
Ouais, c'est ça. Il va vouloir se venger de tous ceux qui ont trahi son père. Alors, ce qui est quand même audacieux, c'est qu'il n'hésite pas à faire la pédagogie de la finance et se lance dans la description de mécanismes complexes.
Oui, totalement. On parle de spéculation de l'or, de baisse du dollar et de l'abandon de la convertibilité. Simbali est également courtier d'un homme d'affaires chargé des intérêts de la Chine communiste. Il profite d'opérations financières secrètes pour gagner des millions. Il profite également de la crise pour acheter des appartements en Floride, dans la Sunbelt, et il va racheter les hypothèques de ses immeubles aux banques en utilisant le leverage. Et il explique, je cite, pour lever une hypothèque, il n'est pas nécessaire de verser la totalité du montant de cette hypothèque. C'est la possibilité réelle de verser 2000 dollars pour arrêter une hypothèque de 100 000 dollars sur un terrain ou un immeuble. Et 9 mois après la crise, il revendra ses immeubles 30 millions de dollars alors qu'il les a achetés à peine 5 millions. Alors, d'opération en opération, il va avoir la peau de son redoutable adversaire, le banquier suisse Martin Yal, et il lui fait perdre les trois quarts de sa fortune avec une OPA, une opération publique d'achat, l'un des plus grands coups fourrés de l'histoire financière.
Et donc, on a envie de connaître la suite, et la suite, vous viendrez nous la raconter la semaine prochaine dans la librairie de l'Écho. Il faut bien que nous aussi, on vous tienne en haleine avec un feuilleton. Et là, franchement, Paul Lussulitzer, relisez-le. Ça n'a pas beaucoup vieilli, non, et c'est vraiment...
c'est passionnant.
C'est passionnant, plein de suspense. Donc, on était contents, voilà, de vous parler de Paul Lussulitzer. On retrouve lui aussi notre grand aventurier des études économiques glanées à travers le monde. Notre globe-trotteur à nous, Ben Aouda Abdedaïm.
BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'ailleurs.
Cher Ben Aouda, bonjour.
Bonjour.
Ben Aouda, on commence notre tour du monde par l'évaluation des impacts socio-économiques des Syriens en Turquie.
Oui, les séismes du 6 février qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie rapprochent encore plus dans le malheur ces deux nations. Est-ce que d'autres Syriens vont maintenant être amenés à traverser cette frontière après cet événement ô combien tragique? La question peut se poser. Le Centre de Recherche Économique et Sociale de l'Université Başakşehir à Istanbul venait de publier le mois dernier ce travail de fond à partir de données de la Direction Générale de la Gestion des Migrations à Ankara. Alors, à la fin 2022, il faut voir que 3 600 000 Syriens vivaient en Turquie sous un statut dit de protection temporaire. L'objet ici est de comprendre tout l'impact de cette communauté réfugiée sur l'économie du pays et leur propre situation sur des questions telles que l'emploi, la santé, l'éducation. Alors Mourad Kirdar et son collègue expliquent que ceux-ci gagnent leur vie en travaillant en grande partie, contrairement, écrivent-ils, à une perception erronée de la part d'une partie grandissante de la société turque pour qui les Syriens vivent de l'aide sociale. Leur taux d'emploi de ces réfugiés syriens s'avère beaucoup plus élevé que celui des réfugiés syriens dans les États européens. D'un autre côté, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nombre d'adolescents syriens réfugiés entre 15 et 17 ans occupent un emploi salarié en Turquie. Ils sont 48% dans ce cas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils remplacent dans le secteur informel les jeunes turcs âgés de 15 à 17 ans qui, eux, par effet induit, poursuivre dans le milieu scolaire. L'impact aussi sur la performance des entreprises est également évalué précisément, mais une corrélation positive qui est établie avec le chiffre d'affaires, avec le résultat net de ces entreprises, en particulier dans l'industrie manufacturière et dans le BTP. Autre effet induit, ces Syriens élargissent le champ d'exploration commerciale, les exportations vers l'Afrique du Nord, vers le Moyen-Orient, lorsqu'ils travaillent dans une entreprise turque. Mais cette présence syrienne a aussi un impact important sur les prix. Dans les régions où ils vivent le plus en proportion, en Turquie, le taux d'inflation est plus élevé, notamment parce que les dépenses de logement, ouais, augmentent. Ah oui. Et les besoins d'investissement aussi dans les services publics, les infrastructures gonflent bien plus vite que ce qui était programmé, ce qui pèse dans les comptes des caisses sociales et des caisses publiques turques.
Direction la Chine, Benin Houda, qu'y a-t-il dans ce programme 1000 jeunes talents?
Recrutement des scientifiques de haut calibre. Alors, trois chercheurs, Shanghai, Pékin, Hong Kong, livrent ici une analyse sur un programme national vers de jeunes scientifiques chinois, le programme 1000 jeunes talents. Il a été lancé en 2010 et a offert à plus de 3500 jeunes chercheurs chinois partis à l'étranger, beaucoup de très haut niveau, un financement et des avantages divers, y compris par exemple les frais de déménagement, pour revenir dans leur pays d'origine. Donc Boshi et ses deux collègues ont étudié 339 dossiers de ces scientifiques qui ont accepté et 73 qui ont refusé l'offre. Alors, ouais, plus de la moitié de ceux qui sont revenus sont titulaires d'un doctorat des 100 meilleures formations mondiales en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le plus marquant, ce sont les gains en termes de publications académiques après ce retour. Ah ouais. Dans les 7 années qui ont suivi, leur productivité sur ce critère s'est révélée supérieure à celle de ceux de leurs collègues qui sont restés à l'étranger. Revenir en Chine vous fait travailler davantage, publier davantage dans les revues académiques et des revues académiques de haut niveau. Non seulement ça se traduit par 27% d'articles académiques en plus, mais de surcroît plus souvent en tant que chercheur principal, donc à l'initiative de cette recherche et dans des publications plus renommées. C'est manifeste dans la chimie, dans l'ingénierie et dans la biologie, mais pas en physique et en mathématiques. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est très intéressant de le voir pourquoi. Et pour les trois auteurs, il y a là des implications politiques pour la Chine à évaluer la mobilité de ces talents scientifiques, d'autant plus qu'en début de carrière, ils ont constaté que les Chinois sont confrontés à des défis croissants, pour pas dire à une défiance croissante, pour l'accès au financement de recherche aux États-Unis et en Union européenne.
On s'attache ensuite à la dynamique du système de santé américain, Ben Aouda. Accélération des dépenses, détérioration des résultats.
Alors, je n'apprends certainement pas grand-chose à grand monde, mais les États-Unis dépensent beaucoup plus qu'ailleurs dans la santé. L'équivalent de 17,8% du produit intérieur brut aux États-Unis, c'est 5 points de plus que la France, 5 points et demi de plus que le Royaume-Uni. Et par rapport à la moyenne des nations de l'OCDE, c'est une proportion pratiquement du simple au double. Ce rapport du Fonds Commonwealth, qui est fondation privée basée à New York, atteste surtout d'une dégradation de la performance sur le montant investi, en quelque sorte. Alors, la spécialiste du dossier, qui s'appelle Munira Gunja, et ses co-auteurs parlent des montants dépensés. En 2021, les États-Unis ont dépensé près de 12 000 dollars en soins de santé par habitant, quand l'Allemagne a consacré, par exemple, 7 400. Pourtant, les résultats enregistrés sur différentes maladies chroniques, sur les décès de cause évitables, sur la mortalité infantile, sur la mortalité maternelle, sur l'espérance de vie, sont nettement plus défavorables aux États-Unis. Un travail de comparaison très révélateur est effectué autour de plusieurs pathologies. Et puis, aucune autre nationalité, toujours au sein de l'OCDE, ne subit autant de situations de superposition de maladies. Les personnes concernées sont plus de 30% dans ce cas, quand au pire, ailleurs, au sein de l'OCDE, c'est 26%. Ouais. Il existe quand même des domaines où la première économie mondiale parvient à afficher des performances honorables, voire très honorables, par exemple dans la prévention des cancers, mais au prix de surcoûts, de très lourds surcoûts. L'IRM, par exemple, américaine, coûte 1119 dollars, quand à l'autre bout du spectre, c'est 420% de moins en Australie. Enfin, pardon, c'est 420% de plus aux États-Unis par rapport à l'Australie. Et sinon, ça ferait moins zéro. Donc, bon, voilà. Et les auteurs avancent aussi certains éléments d'explication sur cette inefficacité criante de la surdépense américaine, parmi lesquels l'accès aux soins réguliers. Là aussi, parce que les États-Unis sont les seuls qui ne disposent pas d'une garantie, d'une couverture maladie garantie universelle. Il n'y a rien, encore une fois, au fond, dans les grandes lignes qui soient déjà connues des experts du secteur, mais Munira Gunjea et ses collègues estiment que leur enquête justifie maintenant d'apporter de très grands changements, ne serait-ce que dans une optique, tout simplement, d'efficacité des montants engagés.
L'importance des dépenses, on le savait, mais l'inefficacité du système, effectivement, c'est plus surprenant. On le savait moins. Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Chronique critique de l'économie. Alors, c'est un pavé, mais c'est un ensemble de 200, un peu plus de 200 chapitres, de deux pages simplement.
Ah ouais.
C'est le casting des autrices. Il n'y a que des femmes, absolument incroyable. Dominique Méda, Laurentia Loeb, Isabelle Coupé-Souberan, Mathilde Dupré, Florence Jadicatrice, que des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont, de manière quotidienne, à tour de rôle, fait des chroniques quotidiennes. Vous voyez, dans l'émission de France Culture, Entendez-vous l'écho ? L'émission de France Culture. Donc, elles ont repris en papier ces chroniques qu'elles donnaient à l'oral dans l'émission. Du coup, on couvre 10-15 sujets. C'est très pédago et c'est mieux qu'un manuel, en fait, parce que vous avez le sujet traité en deux pages. C'est très pédagogique, ça explique plein de notions. Et en même temps, comme c'est chronique critique de l'économie, à chaque fois, les autrices donnent leur avis. Et donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec l'avis qu'elles donnent, tout de suite, vous avez les termes du débat contemporain sur le sujet. Franchement, c'est le gros livre qu'on garde à côté de soi. Et dès qu'on a un sujet à traiter, on va regarder les termes du débat. C'est excellent.
Ouais, elles sont toutes un peu du même bord intellectuel, on va dire.
Elles sont pas de votre bord intellectuel, c'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est pas mon bord intellectuel.
Lumière, en tout cas.
Elles sont pas de celui de Jean-Marc. Voilà, elles sont toutes plutôt, effectivement.
C'est très pédagogique.
Ah, mais ça ne remet pas en cause ça.
Même si vous partagez pas leurs idées.
On n'est pas dans la pluralité et de la diversité intellectuelle.
Ça fait du bien, de temps en temps.
De pas l'être.
Oui, parce que c'est tellement dominé par les gens qui pensent comme vous que ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit peu.
C'est la première nouvelle.
C'est ça.
Ah oui, il y a qu'à BFM Business qu'on croit. Ouais.
Ah bah il y a qu'à BFM Business qu'on accueille autant de
gens de talent,
puisque toutes ces femmes brillantes que vous avez citées, elles sont toutes intervenantes régulières
tout à fait
sur BFM Business, et on en est fiers d'ailleurs. Jean-Marc Daniel.
Alors moi je recommande une biographie de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf, c'est un personnage qui a été bien oublié, qui est un révolutionnaire, qui est un des premiers communistes avant Karl Marx. Ça se passe sous la Révolution française. La double caractéristique du livre, c'est que l'auteur est un grand admirateur de Babeuf, donc il faut un peu trier tout ce qu'il raconte, et surtout il s'appelle Jean-Marc Schiappa, et donc il est surtout connu désormais par sa fille, Marlène, qui est ministre.
Je ne voyais pas où vous vouliez en venir.
Et c'est un peu dommage de ne penser à lui que comme le père de la ministre, parce que c'est un auteur qui, sur la période révolutionnaire et sur le courant babouviste, est un des plus percutants que je connaisse.
Parfait. Allez, moi je termine avec l'Opinion européenne 2020-2022. C'est édité par la Fondation pour l'innovation politique. C'est la 21e édition de cette publication qui sort 2000 et qui, de façon très détaillée, prend le pouls de l'opinion européenne. Et c'est l'occasion aussi de dire qu'on aime beaucoup toutes les études, tous les travaux que publie la Fondation pour l'innovation politique, souvent sur des thèmes d'actualité, et avec des travaux assez bien documenté, c'est dirigé par Dominique Régnier. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.